leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Don DeLillo. Don DeLillo, vous êtes écrivain, auteur de nombreux textes, à la fois de pièces de théâtre, de nouvelles, de fiction, une œuvre très impressionnante. On va commencer peut-être par votre enfance. Quelle enfance avez-vous eue et est-ce que cela éclaire votre situation d'écrivain ?
J'ai grandi dans le Bronx et plus j'avance en âge, plus je me pense comme un gamin du Bronx. Les souvenirs de cette période, jours et années, est très fort. Je me souviens d'énormément de choses et j'ai utilisé quelques-unes de ces informations lorsque je travaillais sur mon livre Outre-Monde. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés au Bronx des années 50. Et beaucoup de tout cela, bien sûr, est tiré de mes souvenirs directement. Et de temps en temps, je retourne en fait dans là où j'habite. Je rencontre des amis, on dîne, on déjeune dans la partie italienne du Bronx, dans cette rue qui s'appelle Authors Avenue. Et c'est toujours un vrai plaisir de faire ça.
Est-ce que le catholicisme a joué un grand rôle dans votre enfance ?
On a grandi, on a été élevés comme des catholiques. La plupart d'entre nous avaient des parents qui avaient immigré d'Italie, comme les miens. Il y avait en fait ce degré de catholicisme dans le quartier lui-même et dans ma maison, dans mon foyer. Il y avait trois générations, mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes, trois cousins, ma sœur et moi. Je crois qu'on était 11 au total, donc c'était donc plutôt occupé comme endroit plutôt plein et c'était la seule vie qu'on connaissait, donc ça n'avait jamais paru un problème.
Avez-vous perdu la foi ?
J'ai perdu quelque chose. J'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas vraiment trouvé ce que c'était encore. J'ai juste des souvenirs qui sont très chaleureux en fait de cette période. De ses bonnes sœurs à l'école, et puis ses prêtres ensuite qui m'ont enseigné au lycée. C'est des gens qui étaient très bien et ce sont de très bons souvenirs.
Y avait-il des livres chez vos parents ?
Non, il n'y avait pas beaucoup de livres. Comme je le disais, mes parents étaient des immigrés de l'Italie. Ils avaient appris à parler l'anglais bien, mais ce n'était pas une maison où il y avait des livres. J'ai un cousin plus âgé qui vivait à l'étage au-dessus et c'est lui qui amenait les livres à la maison avec des disques de jazz. Avec lui, j'allais dans des musées, dans des galeries. On allait voir des films français, des films italiens. Quand on a commencé à les montrer dans le Bronx. Et donc, il y avait cette influence qui était d'un membre de la famille. Et c'était quelque chose de... C'était une influence très favorable. Elle a eu un effet sur moi. Et ça m'a d'une certaine manière mis un petit peu à l'écart d'une manière positive de tous les gens avec lesquels j'avais grandi. D'une certaine manière, ça m'a aussi permis, une fois que je me suis installée à Manhattan, de m'adapter bien mieux. Parce qu'il y avait des différences entre le Bronx et Manhattan à cette période-là. C'était la les différences, c'était comme entre la Terre et Mars, parce que c'était une culture très différente en fait à Manhattan. Il y avait des musées privés et publics, il y avait des librairies, il y avait des clubs de jazz, et puis des gens qui étaient extrêmement raffinés aussi dans certains endroits, des gens qui étaient très riches, des gens qui venaient de partout, hein, qui venaient du monde entier. Alors qu'en fait, là où j'avais grandi, bien sûr, il y avait des gens qui venaient d'autres pays, principalement l'Italie, mais c'était des gens qui n'étaient pas particulièrement éduqués. C'était une grande différence avec Manhattan.
Êtes-vous resté le même, Don DeLillo ?
Oui, d'une certaine manière, je suis resté le même, je crois. Je suis devenu un écrivain. Et c'est en fait ce que j'ai toujours cru. Et quand ça s'est produit, finalement, quand mon premier roman a été publié, ça a été comme un petit miracle. C'est quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Et une fois de plus, je pense que j'ai eu une vie chanceuse, mais une partie de cette chance a été faire publier un premier livre. Chose à laquelle je ne m'attendais pas à cette époque-là. Déjà, les auteurs avaient des agents. Moi, je n'en avais pas. Je ne connaissais pas d'éditeurs. Évidemment, si ça ne s'était pas produit, j'aurais écrit un autre roman, bien sûr. J'étais juste déterminée à continuer à écrire. Et évidemment, j'ai pu faire cela pour des décennies maintenant.
Alors, le premier livre publié, c'était Americana. Ça a eu un succès international. Vous avez été reconnu par toutes les critiques aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et manifestement, ça vous a fait peur, non, ce succès ?
Alors, le premier roman n'a pas rencontré un grand succès. On va dire qu'il a été considéré avec un certain respect, mais assez peu de gens l'avaient lu, en fait, parce que j'étais absolument inconnue. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas toute une politique de marketing dans l'édition, comme il y a maintenant. Donc, j'ai lu à peu près 6 critiques, pas plus. Il s'était pas bien vendu, mais mon éditeur, néanmoins, a été très, très encourageant. Et quand il a lu mon deuxième livre, il est devenu encore plus encourageant. Et puis ensuite, voilà, ça a continué.
Quand avez-vous su que vous alliez être écrivain, Don DeLillo ?
Je savais que j'étais écrivain après avoir travaillé 2 années sur mon premier roman. Finalement, ce roman me prendra 4 ans. Mais après les 2 premières années, j'avais vraiment un sentiment très très fort que j'étais un écrivain. Voilà, j'étais maintenant un écrivain et j'étais absolument déterminée à continuer à écrire, même si ce premier livre ne trouvait pas d'éditeur.
Que veut dire être écrivain pour vous ?
Ça veut dire mettre des mots sur le papier. Ça veut dire des mots, des phrases, des paragraphes. C'est ce que je fais. J'écris. Je ne me pense pas comme un écrivain quand je marche dans la rue ou quand je vais voir un film ou quand je mange au restaurant. Je me pense comme écrivain lorsque je travaille ou lorsque je parle à quelqu'un qui a un microphone qu'il tient à 10 centimètres de mon visage. C'est dans ces moments-là que je suis un écrivain.
C'est un métier d'être écrivain ?
Non, je ne pense pas la chose comme un métier. C'est un métier, bien sûr, mais je n'y pense pas comme ça. J'y pense comme un privilège et je me sens extrêmement chanceux d'avoir pu exercer ce métier pendant toutes ces années.
Vous dites travail, Don DeLillo. En quoi consiste votre travail ? Et puisque vous parlez des mots, dans un de vos derniers livres publiés en français qui s'intitule « L'ange Esmeralda », un livre de nouvelles, vous écrivez à propos d'un de vos personnages « Je veux que les mots restent secrets et qu'ils se cramponnent à l'obscurité au plus profond. »
Alors, le monde dans cette nouvelle est le monde tel qu'il était dans le sud du Bronx. Donc, cette nouvelle, c'est celle qui donne son titre au recueil. C'était un monde où il y avait des feux partout. Les gens vivaient dans la rue, ils vivaient dans des appartements en demi-sous-sol, les gens vivaient dans des voitures abandonnées, ils mendiaient pour de la nourriture. Les jeunes hommes profitaient de toute personne qu'ils rencontraient d'une manière ou d'une autre. C'était un endroit où vous marchiez dans la rue et vous voyiez des fumées s'élever dans la proximité, ce qui voulait dire qu'il y avait un autre incendie, sans que vous entendiez la sirène d'une voiture de pompiers, juste un incendie supplémentaire. C'était une espèce de civilisation brisée à cette période-là. Et je crois que j'ai essayé de dépeindre cela dans cette nouvelle qui donne son titre au recueil.
Nous allons écouter la voix de William Faulkner.
Je suis un peu comme Don Quichotte. Ces personnages que j'ai inventés se bousculent dans mon imagination. J'écrirai sur l'or quand ils me tracassent suffisamment ou quand ils m'amusent suffisamment.
Voulez-vous que nous parlions un peu de votre œuvre? Y a-t-il un roman que vous préférez aux autres?
Oui, c'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite, la Brit et la Führer.
Il faut dire à nos auditeurs que William Faulkner considère chacun de ses ouvrages comme une faillite par rapport à ce qu'était son rêve, à ce qu'était sa pensée originale. Il existe donc de bonnes et de mauvaises faillites. On vous a comparé, William Faulkner, à Proust par les diverses manières de votre style, disons votre optique, et votre façon de prendre un sujet. On a dit aussi que vous aviez construit, à partir d'une seule phrase, tout un livre. Ne pensez-vous pas que chaque sujet doit avoir son style?
Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain simplement traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé.
Abordons le problème du fond maintenant, après la forme. On dit l'univers de Faulkner comme on parle de l'univers balzacien. Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire ce qu'est d'après vous cet univers?
C'est le monde de tout écrivain. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire.
On vous a comparé à William Faulkner. Est-ce un écrivain qui vous a influencé, Don DeLillo?
I had great admiration.
J'admirais beaucoup Faulkner, mais je n'ai jamais voulu écrire à la manière de Faulkner. Il venait d'un milieu qui était totalement enraciné dans la culture du sud des États-Unis, et ça aurait été une erreur d'essayer de devenir une espèce de Faulkner de New York. Mais dans ces années-là, je lisais beaucoup et j'admirais tellement d'écrivains, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, ces écrivains classiques américains et beaucoup d'autres encore. Venant d'Europe, oui, absolument. Camus. J'hésite un peu à nommer ces écrivains, mais il y avait aussi d'autres Américains qui m'ont influencé. Nelson Algren, qui venait de Chicago, et j'allais finalement le rencontrer quand j'avais dans les 25 ans. On s'est rencontrés parce qu'on vivait sur la même plage d'une certaine manière. J'avais emmené ma machine à écrire sur cette plage de Fire Island pour travailler sur un livre, mais je travaillais pas du tout. Et Algren était là également. On s'est rencontré, on a parlé, et j'ai découvert qu'il avait aussi amené en fait sa machine à écrire, qui était une machine à écrire électrique. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas l'électricité sur toute l'île, donc je lui ai donné ma machine à écrire, et c'est sur ma machine à écrire qu'il a écrit son dernier livre.
Dans un de vos livres, Don DeLillo, vous faites une distinction justement entre les écrivains qui écrivent à l'ordinateur et les écrivains qui écrivent sur une machine à écrire. Est-ce que vous les distinguez vraiment aujourd'hui?
Non, je ne sais pas ce que c'est de composer un livre sur un ordinateur. Vous écrivez à la main, alors quelquefois, la plupart du temps sur cette vieille machine à écrire manuelle sur laquelle je me sens très très bien. Je l'ai achetée d'occasion en 1974, donc elle est très vieille. Elle fonctionne toujours très bien et en fait, elle tape des lettres qui sont un peu plus grosses que la normale et ça m'aide à voir les phrases comme si elles avaient une valeur visuelle, pas seulement une valeur de mots sur la page. Et c'est l'apparence, en fait, de la phrase même qui a du sens pour moi. Et quelquefois, je l'étudie. Et je trouve que c'est une combinaison intéressante, en fait, des lettres et des mots. Et c'est une espèce d'image. La lettre A qui va être suivie par un mot avec un L et puis un autre mot qui commence par un O. C'est comme ça que ça se passe. Ça a l'air complètement dingue, mais c'est comme ça. Et puis, c'est ce qui se produit, en fait, dans mon travail depuis de nombreuses années.
Vous avez évoqué le nom d'Albert Camus, nous allons l'écouter.
Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
Alors Don DeLillo, j'aimerais bien qu'on parle de votre style, parce qu'on va parler des sujets que vous traitez et qui ont fait votre très grand succès dans le monde entier, mais il y a aussi le style. Or, il est un peu comme celui d'Albert Camus, il y a beaucoup de philosophie dans votre littérature. Acceptez-vous cette idée ?
Je ne pense pas à la philosophie dans mon travail, en fait. Peut-être qu'elle est là, oui, mais ça vient des personnages. Et si ça vient de moi, je ne suis pas consciente de cette philosophie. C'est pas comme ça que je pense à mon travail. Je pense vraiment à mon travail au niveau de la page. Et je n'essaye pas d'être un romancier philosophe. S'il y a de la philosophie dans mes livres, je l'accepte. Mais je pense au personnage. Et puis, une fois qu'un personnage commence à être façonné dans mon esprit, j'ai une image de lui, une image générale de la personne. Je ne vois pas les détails de cet homme ou de cette femme, son visage, mais j'ai une idée générale de sa physionomie. Et c'est important parce que je suis un écrivain visuel, en fait. Je crée des scènes où les gens sont dans des pièces ou alors des scènes où les gens marchent dans la rue, où ils sont dans une voiture pour toute une journée, comme dans Cosmopolis, voilà, que ce soit le film ou le livre. Et c'est ça dont j'ai besoin. Je suis un écrivain de personnes physiques, pas seulement d'idées dans ma tête, pas seulement de personnages qui existent dans ma tête, des personnages que je vois.
Nous allons écouter un extrait de L'Aventura d'Antonioni.
Desidera, signorina?
Un barattolo di vernice.
Di che colore?
Blu.
Vado subito.
Claudia, ma che cosa succede?
Oh, Sandro, che vergogna. Che vergogna, hai visto? Ho cercato di nascondermi. Io mi sento meschina, mi detesto.
Ti fa piacere dire queste cose?
Ma no, nessun piacere.
E allora perché le dici?
Ma perché è brutto quello che faccio? Perché se adesso tu mi dici, Claudia, ti amo, io ti credo. Io ti credo!
Claudia...
No, stai zitto. Sennò io ti costringerei a giurare. A dirmi una quantità di cose. E non è giusto, non può essere giusto. È assurdo.
Bene, è meglio se è assurdo. Vuol dire che non possiamo farci niente, capisci? Scusi, abbia pazienza, ma non ci serve più.
Non si preoccupi.
Scusi.
Prego.
Quando penso che le stesse cose le avrei dette ad Anna, chissà quante volte.
Ammettiamo pure che le abbia dette. Ero sincero con lei come lo sono adesso con te. Io non ho mai visto una donna come te che ha bisogno di vedere tutto chiaro. Vieni, andiamo a fare un giro.
Alors, Don DeLillo, vous avez parlé d'écriture visuelle. C'est vrai que quand on vous lit, on imagine la vie de vos personnages dans un espace particulier. Et le cinéma est très important, pas seulement parce que vous avez été adapté au cinéma, mais dans vos livres, il y a beaucoup de cinéma. Est-ce que Antonioni a été important pour vous ?
It was important. For my sense of visual,
oui, il a été important pour mon sens du théâtre visuel. Hein. C'était la photographie de ces images, de ces films était merveilleux, et évidemment Terrence Malick aussi. Hein. Donc, dans les années 60, il y avait beaucoup de cinéma à New York, donc je suis beaucoup allée au cinéma. Et c'est ce que je faisais. Le matin, j'écrivais, et l'après-midi, j'allais au cinéma. Et c'était un grand plaisir de découvrir ces films de tant de réalisateurs européens ou de gens comme Kurosawa. Et puis, dans les années 70, en fait, les films américains sont devenus bien plus intéressants. Donc, il y a eu, d'une certaine manière, une autre vague de plaisir cinématographique pour moi.
Vous n'avez jamais eu la tentation de faire vous-même du cinéma après la collaboration avec David Cronenberg ?
J'ai pas passé beaucoup de temps sur le plateau de tournage de Cosmopolis. Cronenberg filmait à Toronto. Et j'y suis pas allée parce que aller sur des plateaux de cinéma n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais en revanche, j'ai pensé que le film était tout à fait admirable. Je l'ai beaucoup aimé, particulièrement les 20 dernières minutes à peu près où il y a une scène entre Robert Pattinson et Paul Giamatti, et ils sont seuls tous les deux dans une pièce, et c'est une scène qui est comme les grandes scènes du cinéma européen ancien, hein. C'est une scène tout à fait remarquable. C'était vraiment le moment le plus intéressant de ce film de Cronenberg.
Thank you.
On a souvent dit de vos livres qu'ils étaient prophétiques. Et c'est vrai que quand on regarde la plupart de vos titres, vous avez pressenti ce qui allait se passer. Est-ce que vous êtes un visionnaire, Don DeLillo?
Non, I certainly don't intend.
En tout cas, je n'essaye pas de l'être.
J'essaye
pas d'avoir ce sens de la prophétie. Je ne sais pas comment ça se produit. Je sais néanmoins que certains de mes lecteurs trouvent qu'il y a de la prophétie dans mes livres, mais c'est quelque chose qui est très, très éloigné de mon esprit. Je crois que ce qui se passe, c'est que peut-être j'écris sur quelque chose qui existe dans la culture, mais qui n'a pas forcément été remarqué par les autres. Et puis finalement, ça devient visible, c'est perçu. Et c'est ça, je crois, qui donne l'impression que j'ai réalisé une espèce de prédiction pour ces choses qui se produisent. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que je ferais intentionnellement, jamais.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, Don DeLillo? Est-ce que c'est pressentir ce qui va arriver, ce que vous avez fait à propos du 11 septembre? Ou est-ce que c'est comprendre ce qui se passe après, comme vous l'avez fait aussi, après le 11 septembre?
J'essaye effectivement de comprendre les choses une fois qu'elles se sont produites. Lorsque l'événement est très important, comme l'assassinat du président Kennedy ou les attentats du 11 septembre, évidemment, ce que je fais souvent, c'est je m'assois et j'écris pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut que j'écrive pour penser vraiment de manière plus profonde. Et c'est ce que j'ai fait dans les deux cas que je viens de nommer. Pour l'assassinat de Kennedy, j'ai d'abord écrit un essai. Puis finalement, j'ai décidé, c'est à ma plus grande surprise, d'écrire un roman sur cet assassinat. J'aurais jamais pensé écrire un roman sur un événement si important historiquement. Mais voilà, j'étais là, je marchais dans les rues de Dallas, je prenais des notes, je parlais aux gens. Et ça m'a, je crois, pris 3 ans pour écrire le livre. C'était une expérience extraordinaire parce que à cette période-là, même si on était 20-25 ans après l'assassinat, les gens étaient toujours complètement bouleversés par cet événement, très obsédés aussi par l'événement. Et évidemment, ça s'est un peu estompé ces 25 dernières années. Et pour le 11 septembre, ça m'a intéressé parce que j'avais de la famille qui vivait tout près du World Center. J'avais mon neveu, sa femme et ses jumelles. Et évidemment, c'était quelque chose de très, très inquiétant et qui, bien sûr, attirait l'intérêt. Donc là, j'ai écrit un essai également. J'ai passé du temps dans cette zone. J'ai eu la possibilité d'aller dans un coin interdit de cette partie basse de Manhattan. Et puis, quelques années plus tard, je me suis dit que je pouvais sans doute écrire un roman. Et ce à quoi ce roman visait, ce qui était le plus important pour moi, c'était de prendre ce livre pour l'amener à l'intérieur des tours, à l'intérieur de cet avion détourné. En d'autres mots, je ne voulais pas écrire un livre où la catastrophe du World Trade Center était quelque chose qui était juste, en fait, quelque chose à la marge du livre. Je voulais que l'événement, le pouvoir de cet événement, soit vraiment le moteur du livre. Et c'est l'histoire, donc, de l'homme qui tombe.
Et dans votre livre sur l'assassinat de John Kennedy, vous avez fait manifestement un énorme travail documentaire. On est embarqué dans votre bouquin. Et vous êtes mis dans la tête de la mère de Lee Oswald. Pourquoi? De Harvey Lee Oswald.
It seemed an obligation. And
Ça se présentait comme une obligation. C'était facile pour moi d'une certaine manière parce que c'était une femme tellement intéressante. Elle parlait d'une manière tout à fait particulière, phrase par phrase.
She completely dismissed everything that happened.
Elle écartait tout ce qui s'était passé et qui ne concernait pas directement son fils. C'était ce qu'elle faisait, Margaret Oswald. Et j'ai également regardé ensuite le rapport Warren et ses 26 volumes. J'en ai eu une copie, en fait, chez un bouquiniste, en fait. Et j'ai lu aussi le témoignage de Margaret Oswald. Et il était absolument incroyable, fascinant, on ne pouvait pas y résister, et il y avait là-dedans des choses qu'un écrivain aurait eu du mal à inventer, et j'ai probablement utilisé certaines des choses qu'elle a dites mot pour mot dans le roman. Et elle arrive au début du livre et puis tout à la fin, et une chose que je dois ajouter, c'est que des années après l'assassinat de Kennedy, j'ai appris que Oswald avait vécu dans le Bronx une année avec sa mère. Il avait vécu à 10 ou 15 minutes de là où j'avais moi-même vécu. Il avait 14 ans à l'époque et j'en avais 16. Ça m'a donné, d'une certaine manière, une voie d'accès au roman. J'ai commencé le roman dans le Bronx, ça veut dire que dès le premier chapitre, je savais ce sur quoi j'écrivais. Je connaissais les rues, je connaissais les gens, je connaissais l'apparence, je connaissais le son même. Et donc ça m'a donné la confiance sur ma capacité à relever un défi aussi important.
Pour autant, vous n'écrivez pas du tout de la littérature autobiographique, Don DeLillo. Et pourtant, est-ce que vos thèmes de prédilection ne sont pas la cartographie de ce que devient l'Américain moyen? Est-ce que vous avez cette mission de décrire ce qu'est l'Américain moyen?
No, I don't have a mission.
Non, je n'ai pas de mission. Chaque livre ou chaque histoire dicte ce qui va y figurer. Je ne commence pas avec une idée qui a à voir avec un concept. Je commence avec des petites choses et ensuite le personnage se développe. J'invente mes personnages. D'abord, visuellement, si on peut dire. Mais la véritable réponse, c'est que le personnage doit s'inventer lui-même ou elle-même. Le personnage commence à prendre vie dans les phrases que j'écris. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais jamais beaucoup de choses sur les individus jusqu'à ce que je commence à écrire. Et puis ensuite, il y a un espèce de rythme, de dynamique qui s'installe, et puis les pages s'accumulent, et petit à petit, on va voir qui est cette personne.
Alors, ne parlons pas de votre vie, puisque vous êtes un homme très secret, Don DeLillo, mais manifestement, vous avez disparu quelques années en Grèce. Pourquoi ?
Non,
je n'ai pas disparu, en fait. Je travaillais, je voulais écrire un roman qui se passait en Grèce. Donc, j'ai eu la capacité de m'y rendre et de m'y installer pour quelque temps. Mais je n'étais pas du tout en train de me cacher. Je travaillais dur. Et c'était extrêmement agréable de voir de nouvelles choses, d'entendre de nouvelles voix, pas seulement en Grèce, mais également dans la région, en Égypte, en Jordanie, en Inde, au Pakistan. Et toutes ces choses se sont accumulées et m'ont aidé à façonner ce roman qui s'appelle Les Noms. En grec, donc, Taranomata.
It's a book.
Et c'est un livre dont je sens qu'il a fait une différence dans mon travail, c'est-à-dire entre cette première décennie des années 70 et puis après, au début des années 80, en fait, les noms m'ont quelque part
amené à ce que je suis aujourd'hui. C'est ce roman-là qui m'a fait l'écrivain que je suis, parce qu'il nécessitait une concentration plus importante, parce que j'ai fait bien plus attention aux phrases sur la page, à l'apparence même des phrases sur la page. Et peut-être la raison est que je voyais toutes ces écritures anciennes grecques sur les monuments, toutes ces écritures égyptiennes également. Et donc j'ai à ce moment-là commencé à m'intéresser plus que jamais auparavant à l'apparence des lettres, et c'est quelque chose que j'ai introduit dans mon travail.
Le rythme de l'écriture, de votre écriture, Don DeLillo, est très impressionnant, parce que la composition des paragraphes, la manière dont l'écriture par moments s'accélère est manifestement très important, y compris dans l'espace de la page. Est-ce que vous portez une attention particulière à la composition de chaque page? Ça, c'est le dernier. Alors, vous venez de prendre un livre.
Alors voilà le dernier paragraphe du dernier chapitre de ce nouveau roman, Zero K. Vous voyez qu'il y a des paragraphes très courts avec des espaces entre les deux. D'une certaine manière, ça fait démarrer le paragraphe. Les différents paragraphes n'ont pas particulièrement de relation les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils décrivent ce qu'expérimente le personnage. Et évidemment, l'espace entre les paragraphes les transforme en unités indépendantes. Si je les avais écrits de manière conventionnelle, ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Et voilà, quand on regarde la page, même si on ne la lit pas, il y a un intérêt visuel qui se dessine et qu'on ressent. Et donc, finalement, on va revenir à la page plus conventionnelle, hein, un peu partout ailleurs d'ailleurs. Et il y a aussi une autre partie du livre. Est-ce que vous pouvez en lire un petit extrait ? Alors d'abord, il y a une autre partie du livre où il y a un sentiment en fait de composition. Hein. Voilà, alors est-ce que je peux lire un petit peu ? J'avais rien préparé. Peut-être un très très court extrait. Voilà, il faut que je trouve une page qui soit adéquate.
I walked the halls. The doors here were painted in gradations of muted blue, and I tried to name the shades. Sea, sky, butterfly, indigo. All these were wrong, and I began to feel more foolish with every step I took and every door I scrutinized. I wanted to see a door open and a person emerge. I wanted to know where I was and what was happening around me. A woman came striding by briskly, and I resisted an impulse to name her like a color, or examine her for signs of something, clues to something.
J'ai marché dans le hall. Les portes étaient peintes dans des nuances de couleurs sourdes. J'ai tenté de les nommer. Mer, ciel, papillon, indigo. Tous ces mots étaient impropres. Et j'ai commencé à me sentir plus bête à chaque pas et à chaque porte que je scrutais. Je voulais qu'une porte s'ouvre et qu'une personne émerge. Je voulais savoir où j'étais et ce qui se passait autour de moi. Une femme tentait d'approcher avec brusquerie et j'ai résisté à la tentation de la nommer. Comme une couleur, de l'examiner pour trouver des signes de quelque chose, des indices.
On va dire quand même deux mots de ce livre qui va sortir en France, Zero K. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un homme qui vit avec une femme qui tombe malade, mais il veut la suivre dans l'immortalité. Comment avez-vous trouvé l'histoire de cette volonté d'immortalité, Don DeLillo ?
Alors, le travail que je fais tend à commencer à partir d'une image qui est dans mon esprit. C'est comme ça que ça commence. Et dans ce cas précis, j'avais une image. C'est pas ce que je suivrais finalement, mais il y avait cette image de grands immeubles d'habitation, hein, très hauts, très isolés au bord d'une rivière. Il n'y avait pas de ville, juste ces cinq ou six groupes de gratte-ciel. Et je me suis demandé, mais qui vit là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien autour? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, finalement, hein, ça a changé. Les questions avaient toujours du sens, mais l'environnement physique a changé. Il s'est transformé en un lieu isolé du monde, à un niveau juste au-dessus de la surface de la Terre. L'idée de l'immortalité est quelque chose qui, depuis quelques années, a pris une place plus importante dans notre culture. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, des scientifiques. Et puis, il y a aussi, effectivement, un certain nombre de choses qui permettent de traiter scientifiquement et technologiquement les corps de personnes décédées et qui nous fait poser un espoir sur le fait que, dans un futur très proche, ces avancées scientifiques et technologiques puissent permettre de faire revenir à la vie ces personnes décédées. J'espère en tout cas que j'ai offert une description qui était juste de cette idée dans mon livre. J'ai fait assez peu de recherches pour ce livre. J'ai trouvé un certain nombre de choses et puis ensuite, j'ai laissé mon imagination partir librement.
Pensez-vous que l'écriture va vous donner l'immortalité, Don DeLillo?
Non, je ne pense pas en termes d'immortalité. Je pense à « mais qu'est-ce que je vais manger ce soir pour mon dîner ?»
Oui, mais vous oubliez que vos lecteurs et vos lectrices, eh bien, vous leur donnez l'immortalité. Merci beaucoup, Don DeLillo. Merci à notre traductrice Pascale Fougère. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Samuel Bernard, Stéphane Touvenin et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.